Imaginez-vous en train de marcher tranquillement sur Terre il y a environ 500 millions d'années. Vous regardez autour de vous, il y a des roches partout, à perte de vue. Et le sol solide est recouvert de poussière. De poussière, oui, pas de terre, pas de terreau. C'est pour une raison assez particulière qu'il n'y a rien de tout cela, une raison qui vous intrigue. Où que vous regardiez, il n'y a pas la moindre plante. Il y a 500 millions d'années, les terres émergées ressemblaient au plus stériles des déserts d'aujourd'hui, des déserts rocailleux qui n'auraient jamais connu la vie. La vie, il y a 500 millions d'années, était aquatique. Vous vous approchez d'un lac alors, et vous regardez à travers sa surface. Il y a des poissons et des algues, la vie est bien là. En faisant un petit bond dans le temps de quelques dizaines de millions d'années, vous commencez à voir, aux abords de ce lac, quelques plantes faire leurs premiers pas hors de l'eau, ou leurs premières racines plutôt, car c'est une des distinctions fondamentales entre les algues et les plantes. Les algues n'ont pas de racines, tandis que les plantes en ont. Les courageuses premières plantes que vous regardez ont émergé il y a environ 470 millions d'années. Elles n'avaient pas de feuilles. C'étaient des organismes capables de photosynthèse, certes, mais à travers leurs tiges, pas à travers leurs feuilles. Ces dernières sont apparues plus tard et elles se sont propagées sur toute la surface de la Terre. Aujourd'hui, il y a des plantes presque partout, depuis les déserts glacés à moins 56 degrés en Sibérie jusqu'aux fournaises à plus de 50 degrés du Sahara. Seuls les champs glacés de l'Antarctique et les plus hauts sommets du monde demeurent trop hostiles à la progression des plantes. Mais comment alors les plantes se sont-elles propagées partout pour nous donner le monde que nous habitons aujourd'hui? Et pourquoi certaines d'entre elles n'existent que dans certains environnements et pas dans d'autres? C'est pour parler de ces plantes qui n'existent que quelque part, les plantes endémiques, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois invités passionnés et passionnants.
Bonjour, Maxime Rome. Donc botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et j'ai commencé en gros à m'intéresser aux plantes vraiment quand j'étais enfant, et ça a été un peu une révélation au fond du jardin du grand-père avec le potager, et puis petit à petit je me suis transporté vers les tropiques américains, voilà.
Et moi, c'est Delphine Arbelet-Bonin, donc je suis physiologiste végétale, docteur en biologie cellulaire à l'Université Paris-Cité. Et moi aussi, depuis toute petite, j'ai été fascinée par les plantes, leur beauté, leur singularité, notamment celles qui sont assez discrètes, auxquelles on ne fait pas forcément attention. Et aujourd'hui, dans mon métier, je m'intéresse à comprendre le fonctionnement de ces plantes-là, comment elles réagissent à leur environnement et notamment des événements un peu stressants, comme le stress hydrique, mais aussi, ce qui me tient à cœur, c'est de diffuser ces connaissances scientifiques sur les plantes au plus grand nombre. Et donc avec une collègue qui s'appelle Lucia Sylvain Bonfanti, je réalise un podcast qui s'appelle « Restez pas plantés là », qui vise à diffuser ses connaissances et incarner la science à travers des scientifiques sur différentes disciplines qui s'intéressent aux plantes. Et nous avons écrit aussi un livre qui s'appelle « Sensible par nature, la vie invisible des plantes révélées par les sciences » et qui vise à reposer les bases de ce que sont réellement les plantes.
Eh bien moi, dans le club des malades mentaux, je suis Elie Semoun. Moi aussi, j'aime les plantes. Depuis tout petit, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on était à l'école, on faisait pousser des haricots dans des cotons mouillés. Et je me souviens que j'en avais pris un et que je l'avais planté au fond de la cour de récréation. Et à chaque moment de récréation, j'allais prendre de l'eau dans ma bouche et j'allais l'arroser au fond. Donc voilà comment ma maladie des plantes a commencé. À part ça, je suis artiste, auteur, réalisateur et comédien.
Eh bien écoutez, Elie Semoun, Delphine Arbelet-Bonin et Maxime Rome, merci d'être avec nous. Nous sommes avec le public du studio 181 de la Maison de la Radio. Vous écoutez Big Bang et nous allons parler des plantes endémiques.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
J'aimerais commencer avec vous, Elie Semoun, oui. Après cette petite introduction pendant laquelle vous nous avez avoué maltraiter des haricots.
Je suis en examen.
Vous avez une histoire particulière avec les plantes, notamment parce que je crois que vous avez un endroit en Corse où vous aimez parfois ramener des plantes.
J'ai la chance d'avoir un jardin en Corse. Ça fait pas longtemps, mais c'était mon rêve parce que je suis passionné comme mes amis, comme mes collègues. J'allais dire, je suis pas du tout collègue, mais de plantes tropicales. Je trouve que elles ont une richesse, elles ont une générosité, elles ont une fantaisie que n'ont pas les plantes d'ici, je trouve. Elle nous apporte des parfums, elle nous apporte des couleurs, elle nous apporte des vigueurs qui sont différentes des plantes d'ici. Et donc, mon rêve, c'était de me faire un jardin tropical. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai ramené de mes différentes tournées, entre autres à l'île Maurice, à La Réunion, à Tahiti, en Guyane. Je ramène des plantes et j'essaye de les acclimater soit dans la serre de ma maison en banlieue parisienne et maintenant en Corse. Et je crois que j'y arrive pas mal.
Et on a le droit de ramener comme ça des plantes venant d'ailleurs ?
Allô ? Je vous entends pas. Allô ?
J'imagine que vous avez fait ça dans les règles.
J'ai fait ça dans les règles. J'ai été voir des pépiniéristes. À chaque fois, je visite les pépiniéristes du coin et je leur demande des papiers, des trucs officiels. Et puis, quand j'emmène les plantes, j'enlève le plus de terre possible pour ne pas ramener des insectes. Mais non, j'ai fait ça dans les règles.
On voulait vérifier ça quand même au début d'émission.
Comment ?
On voulait vérifier dès le début de l'émission.
Oui, tout à fait. Mais j'ai même acheté une valise exprès pour ramener toutes ces plantes. Et d'ailleurs, le promoteur de ma tournée m'a pris pour un fou à chaque fois qu'il m'a au téléphone. Il me dit « T'es le seul humoriste qui ramène des plantes et que je dois amener chez des pépiniéristes. »
Peut-être que les autres
ne
le font
pas
officiellement.
C'est une passion que je partage avec vos invités. On est fou de plantes.
Maxime Rome,
oui.
J'ai une petite question pour vous. Ça veut dire quoi une plante endémique ?
Alors, une plante endémique, c'est une plante qu'on va retrouver que dans un certain endroit de la planète. Ça peut être, par exemple, la Corse, justement. Mmh. Il y a beaucoup de plantes endémiques de Corse, de Nouvelle-Calédonie aussi. Et donc, elles sont là et seulement là dans le monde.
Elise Moon ?
Est-ce qu'elles peuvent, justement, c'est ce que je posais la question. Est-ce qu'elles peuvent, malgré tout, s'acclimater ailleurs ?
Alors, elles peuvent s'acclimater ailleurs.
Est-ce qu'on ne peut pas leur donner les mêmes conditions ?
Alors, on pourrait plus ou moins leur donner les mêmes conditions. Hein. C'est ce qu'on fait dans la plupart des jardins d'acclimatation. Par contre, à chaque fois qu'on essaye d'intégrer une plante dans la nature, entre guillemets, comme ça, on va perturber forcément l'équilibre qui se fait entre les différentes espèces. Et donc, c'est là où ça devient un peu compliqué. Et c'est là où on peut basculer aussi, à un moment donné, sur des plantes dites invasives.
Ouais.
Voilà. Mais en soi, c'est possible.
Comment c'est possible qu'une plante venant d'ailleurs soit... Si elle devient invasive, c'est que quelque part, elle est mieux adaptée ici que les plantes d'ici.
Alors, c'est pas forcément qu'elle soit... Il faut imaginer que dans les écosystèmes, quand on parle d'écosystèmes, on voit souvent ça comme un ensemble d'espèces mis de bout à bout. Et en fait, on oublie que c'est aussi des interactions entre espèces. Et ces interactions, elles sont importantes parce que c'est elles qui régissent l'équilibre entre les différentes espèces. Et donc, quand vous intégrez une nouvelle espèce dans ce milieu, ben, forcément, vous perturbez cet équilibre.
C'est ce qui est arrivé, par exemple, à l'île Maurice, il n'y a plus que 5%, je crois,
oui,
de forêt originelle.
Oui.
Et toutes les autres plantes sont complètement invasives.
Exogènes, ouais.
Des palmiers, des lianes. Et c'est terrible parce qu'elles bouffent l'espace vital des plantes endémiques. Ça, c'est terrible.
Souvent, c'est souvent lié à des espèces qui sont, entre guillemets, plus compétitrices, qui ont des capacités de reproduction plus fortes. Mmh. Et c'est particulièrement le cas sur des îles, effectivement, comme l'île Maurice, ouais, là, Hawaï également.
Ah bah oui, c'est une catastrophe.
Delphine Bonin, vous avez travaillé, vous, sur une plante particulière qui, elle, a la particularité de pouvoir se balader sur des distances absolument colossales.
Tout à fait. Alors, c'est pas une plante endémique au sens où tu viens de le partager, parce que donc c'est Cachylée maritima, qu'on appelle la roquette de mer aussi, qui est une plante halophyte, c'est-à-dire qu'elle pousse sur des terrains salés. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressée, parce que du coup, elle a un métabolisme adapté, une physiologie adaptée qui est assez passionnante. Et cette plante-là, on la trouve sur les littoraux français, hein, Atlantique, Manche, mais aussi en Méditerranée. Et on la retrouve aussi en Afrique du Nord. Et finalement, elle s'est vraiment dispersée largement dans le monde. Donc on la retrouve aussi en Amérique latine, sur les côtes, en Australie, où là, justement, elle a tendance à prendre plus de place que ce qu'elle en prend en France. Et donc cette plante-là, ce qui est fabuleux, entre autres, c'est qu'elle a effectivement des fruits secs, qui sont composés de deux parties différentes qui vont se séparer une fois mûres. Et donc, il y a une partie qui va tomber au sol. Et donc, l'année prochaine, parce que c'est une plante annuelle, elle va germer, il va pousser un nouveau pied de cachylée. Et une autre partie dans laquelle le fruit, donc il y a la graine et il y a un petit peu d'air. Et ça permet à cette partie-là de flotter. Ouais.
Vous pouvez nous dire à quoi elle ressemble, cette plante ?
Alors, il faut imaginer la roquette, voilà, mais un peu plus buissonnante, avec des petites fleurs de 1 cm de diamètre, peut-être un petit peu moins, avec 4 pétales roses. Voilà, plein de petites fleurs comme ça en inflorescence, un peu comme une grappe de fleurs. Et donc, ça, comme les graines germent toutes au même endroit, souvent, puisqu'elles tombent, celles qui tombent au pied, ça forme comme des petits buissons qui apparaissent souvent d'ailleurs au printemps, voilà, printemps-été. Donc, c'est l'une des premières plantes qu'on peut voir sur les plages.
Et ces petites graines donc, elles, qui flottent grâce à cette petite poche d'air, elles font des distances parfois qui sont phénoménales.
Exactement, et c'est pour ça qu'on la retrouve un peu partout dans le monde, maintenant. Effectivement, elle va flotter dans l'océan, mais c'est sa manière de se propager. Donc, même si elle est elle est endémique d'un endroit, finalement, maintenant, on la retrouve un peu partout. Et c'est en fait le but des plantes, c'est aussi de se propager, d'explorer leur milieu. Et donc, Kakilée, c'est sa stratégie à elle. Et donc, finalement, il va y apparaître ce qu'on appelle des écotypes. C'est-à-dire des populations autres que la population d'origine qui vont se former à d'autres endroits, en Méditerranée, plus au nord, et qui vont finir par se différencier génétiquement, entre autres, et morphologiquement. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des sous-espèces.
Parce que les espèces dont vous parliez, Élise Semoun, il y a quelques instants, où des îles entières sont remplacées quelque part, la flore d'îles entières est remplacée, parfois ça peut se faire de manière totalement naturelle, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer.
C'est ça, c'est que les plantes, c'est quand même... En fait, souvent, quand il y a une plante endémique, c'est parce qu'elle est limitée géographiquement, soit parce que c'est une île, soit parce qu'on est dans la montagne, donc on a un climat vraiment particulier. Et en plus, on est limité dans sa propagation. Donc c'est aussi ça qui favorise l'endémisme. Et donc souvent, il y a plein de plantes, finalement, qui ne sont pas limitées.
Vous, Maxime Rome, vous avez étudié une espèce assez particulière
en
Amérique du Sud.
Oui, je travaille sur les fleurs de la passion. Et les fleurs de la passion, c'est un groupe de plantes, alors qui est principalement distribué sur les tropiques américains, donc du sud des États-Unis jusqu'au nord de l'Argentine. Et aujourd'hui, on connaît à peu près 700 espèces de ce groupe-là. Quand on parle de fruits de la passion, on a toujours le maracuja, c'est un peu la pop star de...
Cette jolie fleur qu'on voit dans les jardins parfois, qui ressemble un peu à une méduse d'ailleurs.
Exactement, c'est... Fleur de la passion, parce que justement, les premiers conquistadors qui arrivent en Amérique du Sud voient dans cette fleur tous les symboles du Christ, avec la couronne d'épines, les trois stigmates qui font penser aux trois clous qui ont crucifié le Christ, etc. etc. Et en fait, ils voient dans cette fleur tout un symbole de religieux. Et aujourd'hui, on connaît presque 700 espèces de plantes dans ce groupe-là.
Grimpantes ?
Alors, pour la plupart grimpantes, on suppose dans l'évolution de ce groupe de plantes qu'elles sont arrivées en tant qu'arbres. Et donc, on a encore quelques arbres en Colombie, quelques espèces arborescentes qui peuvent monter jusqu'à 15 mètres de haut. Donc, il faut imaginer des fleurs de la passion en arbre de 15 mètres de haut.
En arbre avec un tronc, c'est pas que des lianes.
Oui, c'est vraiment avec des troncs. Et après, elles sont mises à faire des vrilles et elles ont commencé à grimper. Et donc, une grande majorité des espèces sont avec des vrilles, mais il existe encore des espèces qui sont sans vrilles.
Et alors, ça consiste en quoi d'étudier les passiflores, les fleurs de la passion ?
Alors nous, on s'intéresse au muséum à regarder ce groupe de plantes, parce qu'il se trouve que dans l'Amérique du Sud, c'est le plus grand groupe de lianes dans les tropiques américains. Et aujourd'hui, on a un problème, vous le savez tous, on a la crise de la biodiversité et le réchauffement climatique. Et on a besoin de comprendre comment les lianes ont évolué et vont évoluer dans le temps aujourd'hui. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup intéressé surtout aux arbres, pour des questions, on va dire, financières, parce que c'était des bois précieux, etc. Et donc, une grosse partie de la recherche s'est focalisée là-dessus. Mais on a oublié que toutes ces grandes forêts extrêmement riches, elles comportent aussi des lianes. Et les lianes, aujourd'hui, on estime que ce groupe de plantes peut correspondre jusqu'à plus de 40% de la biomasse sur certaines forêts, notamment les forêts de Guyane. Et donc, c'est un acteur évident de la dynamique de ces écosystèmes, et on doit les étudier, du coup.
L'étude se fait, du coup, d'un point de vue génétique, d'un point de vue...
Oui, alors, il y a plusieurs aspects. Nous, on travaille sur à la fois l'écologie et puis la systématique. Moi, j'ai vraiment un bagage à la base de systématicien, de taxonomiste. Donc, le but, c'est d'écrire des nouvelles espèces, de décrire le vivant, et puis ensuite comprendre comment il s'est mis en place. Voilà, c'est vraiment ça.
Est-ce qu'on voit génétiquement, par exemple, ou dans cette systématisation que vous essayez de faire, est-ce qu'on comprend comment une espèce a pu être adaptée. Par exemple, parmi toutes les passiflores, il y en a certaines qui doivent pouvoir vivre quelque part, d'autres qu'on trouve ailleurs. Il y en a certaines qui doivent être endémiques, même sur des régions toutes petites.
Exactement. Alors, c'est un travail qu'on a mis en place, mais qui a déjà été initié déjà depuis pas mal d'années. Hein. Mais là, en ce moment, on essaie de faire une... Il faut imaginer un arbre phylogénétique. Alors, c'est un peu l'arbre des descendances des passiflores, en ce moment. Donc, il faut prendre... On est en train d'essayer de prendre presque 500 espèces et d'essayer de regarder comment elles ont dérivé les unes des autres. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des zones de la planète qui sont particulièrement propices à l'endémisme sur ce groupe de plantes, et notamment les Andes. Alors les Andes, ça se comprend assez bien, puisqu'on sait que ce groupe de plantes est arrivé par l'Afrique. Alors la particularité, peu de gens le savent, mais les ancêtres de ce groupe de plantes venaient d'Afrique, sont remontés en Europe au moment où l'Europe était tropicale. Donc ça s'est apparu en Afrique autour de 60 millions d'années, et puis c'est arrivé en Europe. Et là, il y a eu deux branches. Il y a une branche qui est partie sur l'Asie, et qui a totalement disparu, et une autre qui est partie sur l'Amérique du Nord, quand les continents étaient encore un peu resserrés. Et puis, ils ont rebasculé en Amérique du Sud. Et ils sont arrivés au moment où les Andes se mettent en place. Et le fait que les Andes se mettent en place, ça a créer une explosion de vie, parce que une différenciation notamment des milieux. Et c'est là qu'on a eu, on a eu tout un tas d'espèces. Et donc, il y a certaines espèces qu'on va retrouver juste en Colombie, sur une montagne en Colombie, parce qu'elles ont, par l'évolution, été extrêmement localisées.
Elie Semoun ?
J'ai une question. Combien de temps met une plante à s'adapter ? J'ai juste un petit exemple. Par exemple, dans les plantes que j'ai ramenées là, il y a une plante, en général, les plantes à l'île Maurice ou à La Réunion, elles ont des feuilles, quand elles sont juvéniles, avec des nervures rouges et des feuilles vertes luisantes. Mmh. Et ça, c'est pour empêcher les tortues de les manger. Parce qu'apparemment, c'est des couleurs qui les font fuir. Maintenant, il n'y a plus de tortues. Donc, est-ce que ces plantes-là vont comprendre qu'il n'y a plus de tortues ? Combien de temps elles vont mettre pour redevenir... pour avoir des feuilles normales? Combien de temps ça met pour s'adapter à son milieu? C'est compliqué, hein,
mais, ça prend
peut-être des millions d'années.
Ça va prendre effectivement des milliers d'années, voire des millions d'années. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est d'ailleurs tout le problème qu'on a dans les médias aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas la différence entre acclimatation et adaptation. Dans le fonctionnement de n'importe quelle espèce, on a une gamme de... Comme nous, on est capable de vivre de 0 degré à...
Mais nous, on s'adapte beaucoup plus facilement.
Pareil, on ne s'adapte pas, on s'acclimate. C'est-à-dire qu'on a la capacité...
Moi, je m'acclimate à cette émission, par exemple.
On a la capacité de s'acclimater déjà. Et donc, on a la capacité quand même de vivre. On va vivre, si on est à plus de 40 degrés, on vivra moins bien. Mais on a la capacité quand même de vivre.
La plante...
Et la plante va faire la même chose, en fait. Elle a dans ses gènes une certaine capacité à vivre... entre cette température et cette température.
Mais parfois, on s'aperçoit que les plantes réagissent beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit.
Suivant les espèces, oui. Parce que souvent, c'est lié aussi au nombre de générations et qui favorise le brassage génétique et donc potentiellement l'adaptation.
Delphine Arbelet-Bonin.
Oui, je voudrais rajouter une échelle supplémentaire qui est l'ajustement. L'ajustement métabolique, l'ajustement physiologique. Donc quand on tente d'acclimater une plante, on tente de l'acclimater sur une durée longue, voir sa descendance, sans parler de l'adaptation qu'elle sur des temps évolutifs, mais l'ajustement, il intervient au niveau de l'individu lui-même et à des échelles toutes petites. Donc sur l'échelle de vie d'un individu, voire quelques semaines, voilà.
Oui, parce que là, je m'adresse aux plantes qui nous écoutent, celles qui vivent dans des appartements, celles qui ne sont pas arrosées, celles qui sont martyrisées, celles qui ne sont pas dépoussiérées, dont les
celles à qui on donne de l'eau par la bouche.
Celles à qui, voilà, exactement. Non, mais moi, c'était gentil. Mais il y a tellement de gens, moi, quand je parle de plantes, qui me disent « Oh là là, moi, je n'ai pas la main verte, je les fais toutes crever. » Vous imaginez le massacre qu'il y a de plantes. Donc, non, mais certaines plantes, blague à part, qui sont un peu maltraitées dans les appartements, qui sont mal placées, etc., malgré tout, elles s'adaptent. Les feuilles se tournent.
Alors, elles ne s'adaptent pas.
Enfin, elles essayent, en tout cas.
Elles font ce qu'elles peuvent.
Elles font ce qu'elles peuvent.
Elles tentent de s'acclimater. Et avant de repartir chercher des plantes à l'extérieur, nous allons, du coup, écouter « Dehors » d'Alain Bachung, qui va nous faire rêver à tout ce qui pousse et qui est bien arrosé.
J'annule la chambre à part, je sors me joindre à l'affluence, me poser sur la branche, au risque de me trouver à l'étroit. Faudra se serrer comme une forêt vierge, faudra se mêler de lianes infinies.
Nous sommes toujours avec mes trois invités, l'humoriste Elie Semoun, la biologiste Delphine Arbelet-Bonin et le botaniste Maxime Rome. Et bien sûr, le public du studio 180 de la Maison de la Radio.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Delphine Arbelet-Bonin, le caquilier maritime, cette petite roquette de mer que vous avez aimé étudier, donne un exemple avec d'autres qu'on a entendu tout à l'heure de plantes qui va se balader d'un endroit à un autre pour conquérir des territoires. Est-ce que vous avez pu voir sur les différents endroits où vous avez pu étudier cette plante une différence justement entre acclimatation, adaptation et puis ajustement?
Alors moi, je suis allée qu'à un endroit, donc j'ai pas exploré tous les endroits où il y a tous les écotypes de caquilier maritime. Je suis allée à Noirmoutier, sur l'île de Noirmoutier, là-bas il y en a pas mal. Mais je sais que les différents écotypes qui se sont différenciés au cours du temps, et qui, notamment, il y en a certains qui viennent de Tunisie, donc j'en ai étudié les graines de Tunisie, je me suis pas déplacée, mais j'ai étudié la plante, il va y avoir des différences de morphologie. Donc les feuilles, je vous ai dit, elles ressemblent à la feuille de la roquette, mais elles sont plus ou moins découpées. Il y a vraiment des écotypes dans les endroits où il fait vraiment très sec et chaud, où les feuilles sont vraiment très découpées et très, très épaisses, très crassulescentes. Voilà. Et donc ça veut dire qu'elles gardent énormément d'eau, parce qu'il y a beaucoup de sel dans le sol, et donc elles stockent aussi le sel dans les feuilles, et elles accumulent aussi de l'eau pour diminuer la toxicité liée au sel. Et donc ça, c'est des ajustements plutôt de l'ordre de l'acclimatation qui ont créé des différents écotypes, voire de l'adaptation si on va plus loin. Et après, au niveau de l'ajustement métabolique, moi c'est ce qui m'a intéressée, il y a différentes stratégies de résistance au sel chez Cachile maritima, dont le fait d'exclure le sel directement des racines. Donc il y a une espèce de tri qui se fait au niveau des racines.
Le palétuvier, il fait ça aussi.
Exactement. Ouais. Bah, c'est une plante halophyte.
Hein, il y a des graines de sel tout autour.
Tout à fait. Donc ça, alors ça, c'est l'excrétion. C'est pas l'exclusion, c'est la troisième. Mmh. En fait, il y a l'exclusion, c'est-à-dire on empêche le sel d'entrer par les racines. Il y a l'excrétion, une fois que le sel est rentré dans la plante, il se forme des petits cristaux, c'est effectivement, sur les feuilles. Le palétuvier est une plante halophyte, puisqu'il vit dans des eaux saumâtres, qui sont à la fois mélange d'eau salée et d'eau douce. Et donc, Cachile maritima a ces stratégies-là. Et la deuxième, c'est le fait de stocker le sel dans les vacuoles, qui sont ces grandes poches d'eau qui sont à l'intérieur des cellules des plantes et qui servent aussi de sorte de poubelle pour éviter la toxicité de ces ions-là.
Ce qui m'a intéressé aussi en préparant cette émission, au-delà de ces plantes qui n'existent quelque part un peu partout dans des endroits exotiques ou qui se baladent d'un endroit à un autre, ce sont les plantes de nos jardins. Parce que nous avons des passionnés comme Elie Semoun qui est ici et vous évidemment qui en avez fait votre métier, qui dans leur jardin, essayent d'éradiquer certaines plantes présentes. Et je me suis dit que si ces plantes étaient là, si ces herbes qui poussent un petit peu partout, qu'on appelle des mauvaises herbes, étaient là et poussaient systématiquement, eh ben c'est probablement qu'elles sont extrêmement bien adaptées à notre environnement et que ce sont donc une partie des plantes endémiques de chez nous. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas bon du coup de les laisser pousser ?
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, c'est qu'effectivement, si ces plantes poussent si bien là, c'est qu'elles ont fini par s'acclimater ou s'adapter. Elles ne sont pas forcément d'ici.
Sauver les pissenlits.
Mais c'est tellement beau, un pissenlit, quand on regarde de près.
Super beau.
Pourquoi les arracher ?
Ouais.
Et en plus, ils font partie de ce fameux équilibre de notre environnement. Donc, elles sont là, elles participent à façonner l'environnement dans lequel on vit.
C'est injuste, les hommes ils décident qu'il y a des mauvaises herbes, qu'il y a des mauvais animaux, il y en a qui tuent les araignées parce que c'est moche.
Oui. On ne les veut pas à cet endroit-là. Dans un jardin, souvent, on veut telle plante à tel endroit et on essaie de contrôler la taille, etc. Donc les plantes qui poussent spontanément, parfois, ne nous intéressent pas, c'est même souvent le cas. Et donc effectivement, on a tendance à les enlever, alors même que c'est effectivement les plus adaptées, enfin les plus acclimatées à cet endroit, puisque de toute façon, elles reviendront quoi qu'il arrive.
Ah oui, ça, il y a des chances. Il y a d'autres plantes endémiques en France. Alors, je ne sais pas si le pissenlit est endémique, est-ce qu'il l'est ? Probablement pas, non, on le trouve un peu partout. Mais il y a d'autres plantes en France, notamment dans les Alpes, oui. Maxime Rome, que vous avez étudiées. Et il y a une certaine répartition géographique qui a une raison qui est absolument extraordinaire.
Oui, alors il se trouve que c'est des collègues de Grenoble qui ont travaillé là-dessus, une équipe au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, et sont intéressés aux androsaces. Les androsaces, il faut imaginer, ce sont des petites primes vertes, c'est la même famille, et leur particularité, c'est qu'elles sont des primes vertes, mais en coussin. Les plantes alpines, souvent, pour se protéger du froid, elles font un peu comme les moutons, elles se rapprochent toutes les unes des autres et elles forment des espèces de coussins. Et ces androsaces, on a montré que la particularité de ces plantes, c'est qu'elles ont évolué à très haute altitude dans les Alpes. Et elles sont issues, certainement, d'une différenciation grâce aux glaciers. En fait, au moment des grandes glaciations, il y a un peu plus de 10 000 ans, une grande partie des sommets des Alpes étaient enneigés, étaient glacés. Et puis, il y avait certains pics rocheux qui étaient sans glace, ce qu'on a appelé les Nunatak. Ça vient de l'Inuit, qui veut dire piton rocheux. Et sur ces pitons rocheux, la végétation est restée. Et il faut imaginer qu'on avait ces espèces de pitons rocheux et entre de la glace.
Un peu comme des îles.
Exactement, les îles du ciel. On appelle ça des îles du ciel, d'ailleurs. Et donc, ces îles du ciel ont favorisé la spéciation, c'est-à-dire la création de nouvelles espèces. Et c'est ce qui a été montré récemment par une équipe de Grenoble, c'est que finalement, on avait des espèces d'androsaces différentes dans les différentes parties des Alpes, liées à ce processus-là, liées aux glaciations.
Et il n'y avait pas d'oiseaux, du coup, à l'époque, qui pouvaient passer d'un sommet à un autre ?
Alors, il faut imaginer que ce sont des plantes qui vont disséminer vraiment très près de chaque plante. Et donc, on n'a pas un phénomène de dispersion extrêmement long. Il y a beaucoup d'espèces, et notamment sous les tropiques, qui ont cette capacité. On dit qu'elles font de la barochorie, c'est-à-dire que le fruit tombe juste au pied de la plante, quoi. Et elle ne va pas plus loin, quoi. Et donc, on n'a pas une dispersion très très longue, quoi.
Est-ce que l'étude, que ce soit des passiflores ou de ces plantes endémiques des Alpes, disons, peut nous donner un indice sur ce qui se passera dans quelques années, ou ce qui commence déjà à se passer avec le réchauffement climatique ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous donne déjà une indication sur ce qui s'est passé. Ça, c'est une évidence. C'est, en fait, en étudiant cette notion d'endémisme, elle nous raconte finalement comment s'est mis en place la vie à travers le globe. Vous prenez comme autre zone française, la Nouvelle-Calédonie, 75% des espèces de Nouvelle-Calédonie sont endémiques. Donc ça, c'est lié au fait que la Nouvelle-Calédonie, ce caillou, en gros, a éclaté de le Gondwana, le supercontinent qui existait à cette période où tous les continents étaient rassemblés, et il s'est séparé très, très tôt, et donc c'est ce qui a fait que ce groupe de plantes a divergé très très tôt.
C'est un petit bout d'un continent gigantesque qui s'est séparé avant le reste,
voilà.
Et donc a évolué indépendamment des autres.
Exactement, et donc ça nous raconte un peu des histoires. D'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, comme une des espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie, c'est l'Amborella, et l'Amborella est considérée aujourd'hui comme la plante la plus ancienne au monde, la lignée en tout cas de plantes la plus ancienne au monde. Donc ça nous raconte déjà l'histoire passée, et puis ça nous pose effectivement des questions sur l'histoire future, parce que ces espèces étant extrêmement localisées, le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité aura forcément des impacts sur ces espèces-là. Et donc il faut se poser la question aussi de la préservation et de la conservation de ces plantes.
Est-ce que vous pourriez décrire une de ces plantes de Nouvelle-Calédonie ?
L'Amborella, donc Amborella trichopoda, c'est une espèce de petit arbuste avec des feuilles très très découpées, une fleur blanchâtre. C'est plutôt une plante de sous-bois. C'est assez difficile parce que c'est assez particulier.
Elle fait exotique quand on la voit, ou
oui, elle fait exotique, clairement. Elle fait clairement exotique. Ce sont des plantes dioïques, c'est-à-dire que les sexes sont séparés. Il y a des plants mâles et des plants femelles aussi.
Voilà. Elie Semoun.
J'essaie de la retrouver sur Internet, mais...
Est-ce que vous avez le temps que vous trouviez cette plante ? Est-ce que vous avez une plante, vous, particulière que vous préférez
Là, en ce moment, ça dépend. En fait, à une époque, j'étais amoureux des camélias. Après, j'ai changé. Je suis passé à d'autres plantes. C'est un nom un peu scientifique. Ça s'appelle les pinstémons.
Ça ressemble à quoi ?
Ça vous dit quelque chose ? Ouais. C'est des très jolies fleurs qui font plein de couleurs différentes. Rose, violet, blanche, etc. Et puis, je les ai installées dans mon jardin et puis elles m'ont trahi. Donc, je suis passé à autre chose.
Vous avez un cœur d'artichaut, on peut dire, vu que l'artichaut est une fleur.
Je suis passé aux asters et puis elles ont envahi mon jardin. Donc, je les ai détestées. Et maintenant, ce serait plutôt des plantes, justement, ces plantes que j'ai ramenées de l'île Maurice et de la Réunion. Et je consulte souvent ce livre-là que j'ai à la main. Je ne sais pas si je dois donner les références, mais en tout cas, c'est un livre sur la faune et la flore spécifique de là-bas, qui s'appelle « Le grand livre de la flore et de la faune originelle des mascareignes ». Et donc, ce sont ces plantes-là que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Parce que moi, en fait, j'ai toujours été... j'ai toujours voulu ne ressembler à personne. Et donc, j'aime les choses que peu de gens aiment. Et je trouve que ces plantes-là, elles sont tellement rares... que je les aime encore plus pour ça, pour leur rareté, pour leur originalité.
Il y a un risque à ramener beaucoup de plantes comme ça d'ailleurs.
Je pense que oui.
Delphine Arbelay-Bonin.
Alors, est-ce que je vais me faire des amis du coup ?
Non, mais je pense que... Non, mais je le sais.
Non, mais c'est important
pense que
de
oui, mais
préciser.
Je les
ramène
sans terre, donc...
Bon. Effectivement, c'est normalement pas autorisé, du moins cadré, quand on transporte de la matière biologique, parce qu'effectivement, on risque soit d'apporter des maladies, en fait, pas que la plante, tout ce qu'il y a autour, qui peut apporter des maladies et ravager ce qui est sur place une fois qu'on l'a transporté, quoi.
Donc il faut
si
faire attention. Donc,
encore, c'est ma faute.
Donc, sans donner votre adresse, ce qui signifie surtout que on peut pas ramener des choses comme ça. Il faut quand même faire extrêmement attention et se renseigner auprès des autorités et connaissances compétentes. Et c'est important de préciser ça. Vous, est-ce qu'on voit, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, est-ce qu'on voit une évolution en France métropolitaine de ce qu'on appelle les mauvaises herbes justement? Est-ce qu'on voit qu'elles changent au fil du temps suite aux changements climatiques qui ont lieu en ce moment ou pour d'autres raisons? Est-ce que c'est le genre de choses qu'on aperçoit? Est-ce que vous connaissez des exemples?
Sur la flore métropolitaine, je ne saurais pas dire. Sur la Guyane, un peu plus, sur certains aspects. Bah, justement, ce qu'on observe dernièrement, c'est que sur les forêts tropicales, les lianes sont en expansion à cause du réchauffement climatique. Et c'est un processus qui est un peu particulier et qui nous pose question et qui risque de poser problème dans quelques années. C'est qu'elles ont cette capacité à pousser plus que les arbres, plus vite que les arbres. Et donc elles empêchent les arbres de pousser. Et les arbres, en même temps, séquestrent du carbone, dont on aimerait bien se débarrasser un peu plus. Et donc, en se développant davantage, elles empêchent les forêts de séquestrer davantage de carbone et donc de nous régler la problématique du réchauffement climatique. Donc c'est une espèce de cercle vicieux. Et c'est ce qu'on observe. Il y a une publication qui est sortie début 2025 sur des forêts en Australie notamment, et qui montre ça, et ça a été observé de manière assez globale sur les différentes forêts tropicales du monde.
Maxime Rome, du coup, on imagine que quand même ce genre de transformation finit par atteindre une certaine forme d'équilibre, mais que là, peut-être, on est à
on est sur un point de déséquilibre global qui est lié à ce réchauffement, à cette perturbation, qui fait qu'on a supprimé cet équilibre, justement, actuellement.
Eh bien, pour continuer à essayer de comprendre tout ça, on va écouter This Is Why de Alani.
This is why, when you tell me that you love me, something you said oh 1 million times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do. When mixed with an I love you, you make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the I'm scared. Thank you.
Nous sommes toujours en compagnie de mes trois invités, la biologiste Delphine Arbelé-Bonin, le botaniste Maxime Rome et l'humoriste Elise Moon et le public du studio 181 de la Maison de la Radio qui se prépare à poser ses questions.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Nous avons une première question de Nine.
Est-ce que l'arrivée d'une nouvelle plante représente un danger pour la faune locale ? Ou à l'inverse, est-ce que la faune locale représente un danger pour la nouvelle plante ?
Maxime Rome, vous voulez répondre à cette question ?
Oui, alors on n'a pas forcément besoin de se poser la deuxième partie de la question, c'est-à-dire que comme c'est une espèce introduite, ce qui nous intéresse, nous, c'est les espèces locales, donc on va plutôt avoir tendance à les préserver par rapport à l'espèce introduite. Par contre, pour la première partie de la question, est-ce que ça peut avoir une influence sur la faune ? Je prendrai un exemple. Dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen, on connaît une plante qui vient d'Afrique du Sud, qui s'appelle Carpobrotus edulis. Alors, c'est la griffe de sorcière. Et cette griffe de sorcière, elle fait des fleurs roses. Et elle a complètement envahi la plupart du littoral, en Corse aussi d'ailleurs.
Il y en a partout, partout.
Au Portugal. Et le problème, c'est qu'elle vient perturber les zones de nidification de pas mal d'oiseaux. Mmh. Et ça empêche, du coup, certaines colonies d'oiseaux de s'implanter sur le littoral. Et donc, ça a une incidence sur la reproduction de ces espèces.
Je vais ajouter une petite question à celle-là. Est-ce que des plantes invasives ont déjà été autorisées à la commercialisation en France ?
Oui, alors c'est tout le problème, c'est que pendant des années, et ça existe encore, on a toujours un temps de décalage entre le moment où on se rend compte qu'elles deviennent invasives et le moment où elles sont vendues. Et donc, il y a deux exemples qui sont assez marquants. L'herbe de la pampa, qui aujourd'hui en Camargue est effectivement un problème majeur. Et puis, vous avez la grande berce du Caucase, qui est une espèce de la famille de la carotte, qui fait des très très grandes plantes qui font presque 3 mètres de haut et qui ont la capacité de brûler la peau quand vous la touchez. Et elle est devenue totalement invasive, notamment dans les Alpes, aussi dans les Vosges. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Elle était vendue justement en jardinerie.
Moi qui fréquente beaucoup les jardineries, les pépiniéristes, etc. On nous vend des plantes qui viennent d'Australie, par exemple des fougères arborescentes. On nous vend des cactus. On nous vend des plantes qui viennent de partout, d'Espagne, d'Italie. Ça aussi, c'est un problème, parce qu'on les introduit dans nos jardins.
Il y a des espèces, on sait qu'il y a... peu de chances pour qu'elles deviennent invasives. Je pense notamment, effectivement,
la fougère
arborescente. On a déjà du mal à les cultiver. Mais par contre, certaines espèces, et notamment quand je parlais de la griffe de sorcière, toutes les espèces qui sont proches, Délosperma, par exemple, qui est une autre espèce d'Afrique du Sud aussi, c'est des espèces qui ont tendance à se reproduire très très rapidement. Et effectivement, on voit un pouvoir invasif extrêmement fort.
Nous avons une deuxième question d'Agathe.
Oui, on a vu dans un épisode de Big Bang que les méduses adorent le réchauffement climatique. Est-ce qu'il existe des plantes dans ce cas qui aiment ces nouvelles conditions et qui vont prendre le dessus dans nos jardins ?
Delphine Arbelé-Bonin.
Alors c'est vrai que c'est assez intuitif. C'est même plus que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on observe des migrations de plantes qui étaient par exemple plus méditerranéennes. Et comme avec le changement climatique les températures sont plus douces, eh bien on voit migrer ces populations vers le nord. Donc effectivement ça a un impact sur les plantes qu'on va trouver dans nos jardins et autour de nos jardins. Ouais.
Nous avons une troisième question de Sophia.
S'il faut sauver les pissenlits, que peut-on faire à notre échelle dans nos jardins pour lutter contre la crise de la biodiversité ?
Maxime Rome.
Il y a une chose très simple, c'est arrêter de tondre la pelouse. Je pense que c'est la chose la plus simple, effectivement.
C'est une réponse simple et rapide, mais Delphine voudrait rajouter quelque chose.
Si je peux compléter, ouais. J'aime beaucoup cette réponse de ne pas tondre la pelouse et puis laisser justement les plantes spontanées, leur laisser au moins un espace, voire plusieurs, dans un jardin, puisqu'en fait, elles amènent toute une biodiversité associée à la faune.
Je suis d'accord. En tant que jardinier amateur, je suis d'accord.
Un peu plus qu'amateur,
j'ai l'impression. Dans mon jardin, il y a des endroits où je laisse en liberté plein de mauvaises herbes.
Nous avons une quatrième question de Chloé.
Quelle est l'origine des premières plantes ?
Delphine Arbelé-Bonin, vous allez nous faire un petit cours d'évolution.
Alors, au cours de l'évolution, les premières cellules photosynthétiques qui faisaient la photosynthèse, c'était des cellules uniques, des cyanobactéries à l'origine. Et puis, au cours de l'évolution, ces cyanobactéries ont fusionné avec une cellule eucaryote, qui a un vrai noyau. Et donc, sont apparues des cellules avec noyau et chloroplastes. Donc, c'est des cellules capables de faire la photosynthèse, et ce qui définit les plantes au sens évolutif du terme. Et après, si on détaille un peu plus, on a donc les algues vertes qui font partie du groupe des plantes et toutes les plantes terrestres qu'on connaît actuellement.
Et je vais peut-être ajouter quelque chose à cette réponse, qui est que pendant très longtemps, les évolutionnistes n'ont pas imaginé qu'il y ait pu y avoir comme ça des croisements entre une cellule d'un type et une cellule d'un autre type pour donner naissance aux plantes, par exemple, ou aux animaux tels que nous sommes. Et c'est une femme qui, dans les années 60-70, Lynn Margulis, qui a émis cette hypothèse-là et qui était absolument persuadée d'avoir raison, que une partie de l'évolution, les plus grands changements dans l'évolution de la vie sur Terre n'ont pas eu lieu à cause d'une sorte de combat darwinien, de lutte pour que le plus fort reste là, mais une sorte de symbiose, une sorte d'endosymbiose, ça s'appelle, où les espèces se sont mises à échanger des côtés positifs. Et c'est comme ça que sont nées les premières plantes, en échangeant des pouvoirs acquis à gauche et à droite. Donc on peut rendre hommage à Lynn Margulis et aux scientifiques en général pour avoir réussi à trouver ça contre la vie générale. Nous avons une cinquième question de Marc.
Oui, bonjour. Je voudrais savoir si le principe de la main verte existe vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est simplement bien s'occuper des plantes, ou est-ce qu'il y a un lien, une communication entre avec l'homme, la femme qui s'en occupe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles peuvent sentir qu'on les aime, qu'on a de l'affection pour elles.
Moi, j'ai l'impression que oui. Moi, je peux dire que j'ai la main verte. C'est vrai que je sauve souvent les plantes des amis. Alors, je me dis d'une façon un peu basique qu'il faut juste se renseigner sur Internet ou en lisant des bouquins pour savoir quel est l'endroit idéal pour mettre une plante, que ce soit en pot ou en pleine terre. Mais je ne veux pas faire paraître fou, mais j'ai la sensation que ce sont des êtres vivants, vous ne me direz pas le contraire, et qu'elles réagissent quand même à la façon dont on s'en occupe. Je crois qu'il y a quand même une forme de communication.
Alors je leur parle pas. Parce qu'elles répondent.
Je leur parle pas. Mais je répète mes textes. D'ailleurs, de mon spectacle qui s'appelle Cactus, d'ailleurs, en hommage au piquant. Mais en tout cas, je pense qu'elles doivent le sentir, qu'on les apprécie, qu'on les aime. Je pense.
Une question de Maggie.
Oui, bonjour. Quel continent est le plus peuplé en termes de flore et lequel serait le plus en danger face au réchauffement climatique?
Est-ce que, alors, maximum, vous pouvez répondre à cette question?
C'est difficile forcément à dire en termes de flore, parce que ça dépend si on parle par exemple de flore endémique, c'est-à-dire des espèces qu'on trouve que là-bas, ou en termes de nombre d'espèces.
C'est l'Amérique du Sud, non?
Il y a l'Amérique du Sud, mais en fait, on a identifié à l'échelle internationale ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité. Donc, il y a effectivement une partie de l'Amérique du Sud, au niveau de la Colombie, l'Équateur, toute cette zone-là qui est extrêmement riche, l'Amazonie, bien sûr. Et puis, vous avez l'Himalaya, des choses comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement certains écosystèmes qui vont être plus impactés par le réchauffement climatique. Je pense notamment aux écosystèmes d'altitude. Tout simplement parce que quand on est une plante dans ces milieux-là, bon, avec le réchauffement, on va monter en altitude, puis à un moment donné, on arrive au sommet. Donc, on est un peu embêté une fois qu'on arrive au sommet, quoi. Ce qu'on disait, ce qui est un peu le thème de l'émission, c'est que ces espèces endémiques, pour celles qui sont vraiment ce qu'on appelle des micro-endémiques, c'est-à-dire des espèces qui vont se trouver vraiment dans des tout petits endroits, forcément, quand on a une forte perturbation à cet endroit-là, eh ben elles vont être plus en danger. Donc, effectivement, les espèces très endémiques, on va dire des endémiques restreintes, vont être fortement impactées.
Il est venu le moment du petit son mystère. C'est-à-dire que je vais vous faire écouter à tous les trois un son que normalement aucun de vous trois n'a déjà entendu. Et en l'écoutant, vous allez essayer de deviner de quoi il s'agit. Alors, je vous dis tout de même que ça a un rapport avec l'émission, mais je ne vous dis pas exactement lequel. Si vous voulez bien écouter,
voici le
ça
son.
Donne à peu près ça. C'est parti.
Entrez.
Vous avez le droit de penser tout haut, hein, tout en écoutant.
Bah c'est un. A priori, moi, je pense au bec d'un oiseau contre un tronc, mais c'est un rapport avec les plantes.
Oui.
On peut poser des questions.
Ah, bien sûr. Mais
est-ce que c'est émis par une plante? Un son,
oui,
qui est émis par une plante.
Absolument. Ah, c'est une plante qu'on arrose.
Non.
C'est une plante qu'on coupe, dont on coupe les branches. Est-ce que c'est une plante qui souffre?
C'est tout à fait possible.
C'est sûr possible. Que c'est ça. Mais alors, c'est une plante dont on coupe les branches.
Étant donné que vous êtes sur la voie, on va demander immédiatement à la personne qui a pris le son de quoi il s'agit. Nous sommes au téléphone avec Philippe Marmottan, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialiste en physique des plantes au laboratoire interdisciplinaire de physique de Grenoble. Bonjour Philippe Marmottan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le son qu'on vient d'entendre et vérifier si Elise Moon, qui voit des plantes souffrir partout, a raison?
Eh bien, en fait, il avait raison. C'est une plante qui souffre. C'est du bois qui est enregistré en état de stress hydrique, donc en cas de sécheresse.
Qui a soif.
Et ce qu'on entend là, c'est le bruit des petites bulles de cavitation. C'est des bulles qui se produisent lorsqu'il y a beaucoup d'évaporation, la sève est sous tension et de temps en temps elle craque. C'est des sons tout petits, il faut un micro spécial qui écoute dans les ultrasons et en réalité ces ultrasons on les entend pas avec l'oreille humaine, donc on les a ralentis pour les écouter et ensuite identifier donc ces bulles qui se produisent un peu partout. Ces bulles vont grandir et vont ensuite bloquer la circulation de la sève. Donc c'est ça qui va mettre en danger la plante.
Donc en gros, lorsque la plante est en stress hydrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, des bulles se forment et ce sont les bulles d'eau qui bloquent la circulation de la sève elle-même et mettent en danger, j'imagine, la survie de la plante derrière.
C'est des bulles d'air qui se produisent dans l'eau, donc dans la sève. Et ces bulles vont gonfler et vont ensuite envahir tout le réseau de transport de la sève. Et donc quand le réseau sera à sec, là il y aura plus d'eau pour alimenter la plante. Et c'est là que la plante va vraiment souffrir et de devenir marron, devenir sèche.
Est-ce qu'elle peut guérir de ce genre de situation lorsqu'elle récupère de l'eau derrière?
Oui, dans certains cas, on peut voir qu'elle peut guérir. Il ne faut pas que ce soit trop prononcé. Et c'est ce que certaines espèces qui arrivent à guérir. Donc, c'est notamment les feuillus. Certains feuillus récupèrent très bien. Les conifères, c'est beaucoup plus dur pour eux de récupérer en cas de cas de bulles de cavitation.
Mais d'ailleurs, elles nous parlent, les plantes. Quand les feuilles jaunissent, par exemple, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire « donnez-moi à boire » ou « vous m'avez donné trop d'eau ».
On parle pour les plantes en appartement.
Oui, entre autres.
Oui, complètement. Oui. Donc, on a étudié ça, effectivement. Certaines plantes sont plus démonstratives que d'autres. Ouais. Et donc, c'est plus facile de s'en occuper.
Elles nous écoutent, d'ailleurs. Elles écoutent France Inter.
dans toutes ces maisons où la radio tourne en permanence. C'est très bien. Et lorsqu'on étudie ce genre de phénomène, est-ce que ça permet de comprendre un petit peu mieux comment peut-être aider les plantes à survivre dans des endroits particuliers, ou est-ce que ça signifie tout simplement que les plantes ne sont plus adaptées à l'endroit où elles sont?
Ça permet vraiment de voir un peu quel est l'état de la plante, comment est-ce que la plante se comporte lorsque le climat s'assèche. Donc quand il y a ces bulles de cavitation, là c'est vraiment un peu la zone critique. Donc c'est un moyen de savoir quand est-ce qu'on rentre dans la zone critique. Et donc si c'est trop prolongé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc effectivement, ça peut servir à observer un petit peu quelle est la résistance des arbres lorsque le temps change ou même le climat change. Et pour voir lesquelles sont adaptées ou pas au climat.
Eh bien écoutez, Philippe Marmottan, merci beaucoup pour ces explications sur les bulles des plantes. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, Elise Moon. Votre spectacle Cactus est actuellement en tournée dans toute la France et ce jusqu'en septembre 2026. Merci à vous, Delphine Arbelet-Bonin. Votre livre Sensible par nature, la vie invisible des plantes révélée par la science, coécrit avec Lucie Sylvain Bonfanti, vient de paraître aux éditions Ulmer. Et merci à vous, Maxime Rome, je pense que tout le monde va vouloir avoir des passiflores adaptées chez soi très bientôt. Et évidemment, merci au public du studio 181 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Gaspard Guy Bourget, à la vidéo Vincent Désières et à la préparation et à la programmation, la fameuse Élodie Royer. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour deux émissions. La billetterie vient d'ouvrir, vous pouvez réserver vos places sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique.